Le nouveau mois de Marie. 20e jour. Douleur de Marie lorsqu'elle perdit notre Seigneur à l'âge de 12 ans. Ah, quelles épreuves, cher Théotime! Le Seigneur ne met-il pas quelquefois les âmes les plus chères à son cœur? Quelle tristesse profonde pour Marie! Quelles inquiétudes, quelles alarmes, ou plutôt quelles angoisses pour le cœur d'une mère, lorsque pendant 3 jours et 3 nuits, elle chercha partout son divin Fils sans pouvoir le trouver. Elle le demandait à tous ceux qu'elle rencontrait, sans qu'on pût lui apprendre où il était. Elle l'appelait sans cesse et n'entendait pas sa voix. Qui pourrait comprendre ce que son âme souffrit alors? Que de pensées affligeantes, comme autant de traits aigus, perçaient son cœur. Ô mon Fils, qu'êtes-vous devenu? Pourrais-je encore vous donner le doux nom de Fils? Ah, sans doute mon amour pour vous n'était pas assez vif, sans doute je n'ai point assez fidèlement correspondu aux grâces dont vous avez comblé votre servante. Hélas, combien ce court espace de 3 jours dut lui paraître long? Jugement, méditation. Le jugement, cet instant si consolant pour le juste et si terrible pour le pécheur. Où se commencera et se consumera l'union éternelle de l'âme juste avec Jésus? Où se commencera également et se consumera la séparation éternelle du pécheur avec son Dieu, seul principe et centre du véritable bonheur? Quel effroi pour l'âme sortie de ce monde dans la disgrâce de Dieu, quand elle reconnaîtra celui qu'elle a perdu par sa faute et qu'elle ne peut plus retrouver. Méditons, mon cher Théotime, ce premier acte de l'autre vie, vers laquelle nous avançons sans cesse, sans pouvoir nous arrêter un instant. Considérons 4 choses, le juge, le criminel, le procès, la sentence. 1. Le juge. C'est Dieu infiniment puissant, infiniment sage, infiniment juste. Là où j'ai rendu le dernier soupir, dans ma chambre, le tribunal est tout dressé. Jésus paraît revêtu de gloire et de majesté. Hélas, il était mon père, et je ne l'ai pas aimé. Il était mon roi, et je l'ai abandonné. Je me suis rangé parmi ses ennemis. Il était mon Dieu, et je l'ai méprisé, outragé. Dans un clin d'œil, il fera peser sur moi tout le poids de mes ingratitudes, de mes insolences, de mes rébellions. Quelle situation! Un ver de terre, un grain de poussière en présence du Très-Haut. Un esprit fort, un jeune incrédule, seul devant la majesté de Dieu. Un homme de plaisir et de volupté, objet des recherches et des applaudissements du monde. Seul devant la toute-puissance de Dieu. Une âme toute couverte de péchés, effrayée, tremblante devant la pureté, la sainteté de Dieu. Où me réfugier? Ne me jetterai-je dans les bras de Marie? Mais oserais-je le faire? Je l'ai si peu, si mal servi. J'ai crucifié son Fils par mes crimes. Me tournerai-je du côté de mon saint ange gardien? Mais avec quel espoir? Je l'ai presque toujours contristé, repoussé. Le démon, pendant ma vie, a été mon maître, mon roi. Dans ce jour redoutable, hélas, le perfide, il deviendra tout à coup mon accusateur. 2. Le criminel. C'est l'homme, et l'homme seul en présence de Dieu seul. Quel sera alors l'effroi du pécheur? Vous savez, mon cher Théotime, ce que rapporte l'Écriture sainte de l'impie Balthazar. Assis à un festin splendide, environné des grands de ce royaume et des officiers de son palais, Balthazar oublie qu'il est mortel. Ivre d'un fol orgueil, il fait apporter les vases sacrés du temple de Jérusalem. Les grands de l'Empire, le roi, les courtisans profanent les vases consacrés par la religion. On boit avec excès. On vante les dieux des nations, les dieux d'argent et de pierre. Une joie insensée transporte tous les convives. Tout à coup, une main paraît. Elle écrit sur la muraille. Balthazar l'aperçoit. Épouvanté, il pousse un cri. Son visage change. Il pâlit. Ses genoux tremblent et se choquent rudement l'un contre l'autre. Grand roi, quoi ? Vous tremblez et vous êtes environné des splendeurs de la royauté ? Et ne voyez-vous pas ? Prince, que voyez-vous donc ? Cette main qui écrit. Ah, mon cher Théotime, si l'apparition subite d'une main écrivant les arrêts de la justice divine fit trembler un monarque puissant, quelle sera la consternation de l'homme pécheur à la première vue de son Dieu, à la première rencontre de son juge ? Pas un ami, pas un parent pour le défendre. À sa droite, le Saint-Ange gardien témoin. À sa gauche, le démon accusateur. « Où êtes-vous ? » s'écriera le pécheur. « Vous pour lesquels je n'ai pas craint d'offenser Dieu. Où êtes-vous ? » Hélas, personne ne s'offre pour parler en sa faveur. Le voilà entre deux éternités. S'il lève les yeux, il voit son juge irrité dont les regards le foudroient. S'il les abaisse, l'enfer ouvre ses abîmes pour le dévorer. Derrière lui, le monde, à une si grande distance qu'on ne peut ni l'apercevoir, ni s'en faire entendre. Autour de lui, l'armée innombrable de ses péchés. Devant lui, la mer de l'éternité, mer sans fond, mer sans rivage. 3. Le procès. Le grand livre de la justice de Dieu est ouvert. Liber scriptus, proferetur. Il est placé sous mes yeux. J'y distingue tous mes péchés. Péchés de mon enfance, péchés de ma jeunesse, péchés d'un âge plus avancé. Tout le bien que j'ai dû faire et que je n'ai pas fait. Tant de pertes de temps. Tant d'inspirations rejetées. Tant de bons exemples repoussés. Tant de folles dépenses sacrifiées au jeu, à la sensualité, à la vanité. Hélas, pour être jeté au feu, il suffit de n'avoir pas produit de bons fruits. J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. Si l'homme est condamné à ce titre, quel est le sort qui l'attend pour tant de péchés qui ont souillé sa langue, ses yeux, ses mains, tous ses sens ? Quelle excuse fera-t-il valoir ? Dira-t-il que la grâce lui manquait ? Il en a été inondé, et s'il l'eût voulu. Mais non, c'est sa faute, sa pure faute, sa très grande faute. Infortuné pécheur, qu'alléguerez-vous dans ce terrible moment pour votre justification ? Direz-vous que vous avez vécu comme les autres, comme la foule ? N'avez-vous pas lu dans l'Évangile que le petit nombre se sauve ? Et que la voie de la perdition est large, et que c'est la foule qui la suit. Mon naturel était si vif, mes passions si fortes. Fallait-il donc les entretenir, les enflammer ? Pourquoi ne pas fuir l'occasion ? Pourquoi les lectures dangereuses, ces compagnies où mille pièges étaient tendus à l'innocence ? Le démon me tentait. N'aviez-vous pas votre ange gardien ? Lequel des deux avez-vous choisi, préféré ? Mais je craignais les railleries du monde. Vous avez craint les hommes, et vous n'avez pas craint votre Dieu ? Fallait-il attendre que vous eussiez été cité à son tribunal pour ne plus l'outrager, lui, votre bienfaiteur et votre père ? Mais enfin, le mal est fait. Est-il donc sans remède ? N'est-il pas un moyen de salut pour moi dans les trésors de la divine miséricorde ? La divine miséricorde, son règne est passé, c'est maintenant celui de la justice. 4. La sentence. Pour les justes, venez les bénis de mon Père, benite, benedicti. Pour les réprouvés, allez, maudits, ite, maledicti, benite, venez, ite, allez. Qui pourrait comprendre la différence de ces deux mots ? Venez, où donc, mon Dieu ? Avec Jésus dans le paradis ? Allez ! Et où iront-ils, Seigneur ? Avec les démons en enfer ? Mais cette sentence ne sera-t-elle pas révoquée ? Non, jamais. Ne sera-t-elle pas commuée? Non, jamais, elle ne changera pas d'un iota. Oh, ciel! Quelle sera ma sentence? Malheur à moi qui dois être jugée, et qui y pense si peu. Exemple. Un solitaire avait eu le malheur de vivre assez longtemps dans une grande négligence de son salut et de sa perfection. Il tomba dangereusement malade, et bientôt, il fut réduit à l'extrémité. Alors, il fut ravi en esprit, et pendant une heure entière, il parut hors de lui-même. Dans ce ravissement, il vit la rigueur et la juste sévérité des jugements de Dieu. Étant revenu à lui, il fut tellement frappé de ce qu'il avait vu, qu'il se résolut à la pénitence la plus extraordinaire. Il conjura tous ceux qui étaient présents, du nombre desquels était saint Jean Climaque, qui rapporte ce fait de se retirer. Puis, ayant fait murer la porte de sa cellule, il y demeura renfermé pendant 12 ans, sans parler à personne et ne vivant que de pain et d'eau qu'on lui apportait. Il se tenait assis, méditant continuellement ce qu'il avait vu, demeurant toujours dans la même posture, les yeux fixés et versant un torrent de larmes. Lorsqu'il fut près de mourir, les solitaires enfoncèrent le mur qui fermait sa cellule et s'approchèrent de lui. Tous, alors, le prièrent avec instance de leur adresser quelques paroles d'édification. Il s'en excusa longtemps. Enfin, il leur dit « Pardonnez-moi, mes frères, si je ne vous dis qu'une seule chose. Si je ne vous dis qu'une seule chose. En vérité, si les hommes savaient combien le jugement de Dieu est redoutable, ils ne pourraient jamais l'offenser. » Et après avoir dit ces mots, il expira, laissant tous les religieux pénétrés d'une juste frayeur. Autre exemple. Saint Jean Climaque rapporte encore l'exemple suivant, qui n'est pas moins terrible que le premier. Un religieux, dit-il, nommé Étienne, vivait avec nous dans le désert. Il demanda la permission de se retirer dans un lieu plus solitaire. Après s'être exercé dans les austérités de la vie monastique, après avoir donné des preuves d'une haute sainteté, il fit bâtir une petite cellule au pied de la montagne où habita autrefois le prophète Élie. Mais désirant mener une vie encore plus pénitente, il se retira dans un lieu nommé Sidex. Là, éloigné de toute consolation et de toute conversation avec les hommes, il se livra aux rigueurs de la austère pénitence. De la plus austère pénitence. Après quelques années de séjour dans cette solitude, se voyant fort avancé en âge, il retourna dans sa première cellule, au pied du mont sacré, où il avait laissé 2 religieux de la Palestine qui avaient eu soin de lui conserver un petit logement. À peine y fut-il arrivé qu'il tomba dangereusement malade. La veille de sa mort, il parut tout à coup saisi de frayeur. Il portait ses regards à droite et à gauche de son lit, comme s'il eût vu des personnes qui lui fissent rendre compte de ses actions. Il répondait si haut que tous ceux qui se trouvaient présents le pouvaient entendre. « C'est vrai, vous avez raison, je ne puis le nier, mais pour cette faute, j'ai jeûné tant d'années. » Puis il disait « Non, je ne l'ai pas fait. » Et bientôt après, « Vous dites vrai, je le confesse, mais pour cela j'ai versé bien des larmes, j'ai servi mon prochain plusieurs années. » Puis il disait « Pour cela, c'est vrai, je n'ai point d'excuse à alléguer, mais j'espère en la miséricorde de Dieu. » C'était, ajoute saint Jean Climaque, un spectacle déchirant. Ceux qui entendaient cet invincible jugement étaient tremblants et saisis d'effroi. Malheureux et misérable que je suis, que deviendrai-je, puisque ce vertueux vieillard, si ami de la retraite et de la solitude, dont la vie a été si austère, n'avait rien à répondre pour quelques fautes commises autrefois, bien qu'il eût passé 40 ans dans le désert et dans les rigueurs de la pénitence. Guide des pêcheurs, par le père Louis de Grenade. Pratique. Prenez la sainte habitude de ne vous coucher jamais sans être prêt à paraître devant Dieu. C'est le moyen de n'être pas surpris. On ne l'est qu'une fois, et c'est pour l'éternité.
Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.